Radio Classique, les spécialistes.
TikTok, voilà Dimitri Pavlenko dans un instant. Mais nous allons nous appesantir sur la situation italienne, puisque tout à l'heure j'évoquais l'Union Européenne. Où en est la politique italienne, Emmanuel Faux, à tous les courages ce matin? Les élections régionales qui avaient lieu hier et avant-hier ne bouleversent pas le paysage à Rome. Quelle ville magnifique. C'est la gauche qui gouverne, mais localement, c'est la droite qui domine.
Bah oui, Guillaume, parce que ce scrutin régional d'hier et d'avant-hier, il avait une particularité, puisque c'est la première fois que les Italiens se rendaient aux urnes, depuis la crise sanitaire, qui, on le sait, a très durement frappé la péninsule. Et comme en Italie, la politique de santé, la gestion des hôpitaux est largement décentralisée, elle est du ressort des régions, eh bien, le vote de dimanche et d'hier a surtout permis aux électeurs de rendre leur verdict par rapport à la gestion de la pandémie par leurs élus locaux. Et résultat, eh bien, presque toutes les majorités régionales ont été reconduites, y compris en Toscane, où la gauche sauve son fief historique, de même que la région de Naples et les Pouilles. Il n'y a que la région des Marches, dont la capitale est Ancône, et vous connaissez peut-être Guillaume, qui passe à droite. Et la droite...
Tous ces noms me font rêver. Vous pouvez y aller.
On
Naples,
tout de suite.
Les Pouilles, la Toscane, on a l'impression d'être en vacances.
Toute l'histoire d'Italie qui défile. La droite et l'extrême droite ont fait alliance partout en présentant des candidats d'Union. Face à la coalition au pouvoir à Rome, où le Parti démocrate et le mouvement anti-système 5 étoiles qui gouvernent ensemble sont partis chacun de son côté, sans finalement y laisser trop de plumes. Mais à l'arrivée, le rapport de force est très clair. 14 régions sont dirigées par la droite et la droite extrême, contre 5 régions dirigées par la gauche. Le résultat de ces élections est un peu en trompe-l'œil, parce qu'il est sans conséquence aucune sur le gouvernement de centre-gauche de Giuseppe Conte, mais il montre bien que la droite et l'extrême droite pèse de plus en plus lourd dans les villes et dans les régions.
Et puis on voit émerger un nouveau parti, un nouveau visage.
Oui, la Ligue doit désormais compter avec Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie, et sa dirigeante Giorgia Meloni. Frères d'Italie, vous le savez, c'est le nom de l'hymne national, qui a été donc récupéré par ce petit parti d'extrême droite créé il y a déjà 8 ans. Un parti qui sent un peu le soufre, puisque certains de ses membres sont considérés comme des vrais nostalgiques de Mussolini. C'est le cas par exemple de Francesco Acquaro, qui a mené la bataille victorieuse de la droite dans la région des Marches. On l'a vu dans des dîners organisés par des partisans du Duce. À Naples, le candidat du parti a carrément repris le slogan mussolinien « Je m'en fous ». Cela n'empêche pas la leader du mouvement Giorgia Meloni, 43 ans, originaire de Rome, de commencer à faire de l'ombre au tonitruant Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur, évincé du gouvernement l'an dernier. Cette ancienne militante d'Alliance Nationale jongle habilement avec les différentes thématiques. Elle est très radicale sur l'immigration, quelquefois même elle dépasse Salvini sur sa droite, mais elle est beaucoup plus classique sur l'Europe ou sur l'euro, qu'elle ne rejette pas. Elle se dit à la fois femme, italienne, mère et chrétienne. Elle n'a pas encore ravi le leadership à la Ligue de Salvini, mais de scrutin en scrutin, elle prend date. Et disons qu'elle fait doucement son entrée dans la grande arène de la politique italienne.
Merci mille fois, 7h43, un soupçon de virgule. Et voici qu'entre en scène Dimitri Pavlenko une nouvelle fois, TikTok.
Guillaume Durand sur Radio Classique.
Alors nous parlons de cette affaire, mon cher Dimitri, depuis maintenant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. On connaît la situation, mais elle est emblématique de quoi ?
Eh ben, elle est emblématique tout d'abord de peut-être ce que devrait faire l'Europe, qui regarde sur plein de points Donald Trump avec un certain mépris, mais qui, sur le plan de sa bataille vis-à-vis de la Chine, sur le plan industriel, fait preuve quand même d'un volontarisme que, quelque part, je me demande si on ne devrait pas le lui envier. Alors pourquoi ? Parce que TikTok, je résume très rapidement, application de partage de vidéos, très prisée chez les jeunes. Le problème, du point de vue des autorités américaines, il est multiple. C'est d'abord que c'est une entreprise, ByteDance, le propriétaire de TikTok, sur lequel le Parti communiste chinois a une emprise particulière. Il y a un comité interne dirigé par le Parti communiste, avec des problèmes de censure très lourds, notamment en Chine.
C'est pour ça qu'il voulait une entrée au capital des grandes sociétés américaines, dans le cas...
Voilà, c'est ça.
Si TikTok, c'est Oracle et donc Walmart qui sont rentrés.
Voilà, donc l'injonction faite par Donald Trump il y a maintenant 45 jours, au milieu de l'été, c'était de dire soit vous séparez les activités américaines du reste de votre activité en faisant entrer des groupes américains au capital et je vous fiche la paix, soit je vous bannis des États-Unis. Alors l'histoire est un peu compliquée parce que ces dernières heures, semble-t-il, l'accord sur lequel on était tombé ce week-end était un petit peu en train de tomber à l'eau, à savoir que Donald Trump voulait que Oracle et Walmart prennent l'entièreté du capital de l'activité américaine de TikTok. Biden, sur ce point-là, n'est pas tout à fait d'accord. Bref, on se chamaille sur ce point-là. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, à travers TikTok, ce que fait Donald Trump, c'est quelque part une forme de nationalisation. Alors, entendez-moi bien, c'est pas l'État américain qui entre au capital de TikTok, ce sont des sociétés américaines qui entrent pour le compte du gouvernement américain au Capitole de cette nouvelle société, mais c'est une vente forcée pour raison d'État. Et ce bras de fer que les États-Unis ou la Maison-Blanche a avec la Chine au sujet de TikTok ressemble un petit peu à celui qu'on devrait, qu'on pourrait avoir, nous, avec les GAFA. Je vous donne un exemple dans l'actualité ce matin, vous lisez dans Les Échos, que Facebook pourrait fermer Instagram en Europe. Instagram, c'est l'un des réseaux sociaux propriété de Facebook. La raison, c'est que la CNIL irlandaise est en train de dire à Facebook « On a un problème avec les données, vous rapatriez les données des Européens ». Aux États-Unis, il va falloir que ça cesse, on veut que les données restent en Europe. Ça vous rappelle rien ? C'est exactement le sujet autour de TikTok. Et Facebook menace l'Europe en disant « Très bien, on va sortir, nous, Instagram, d'Europe ». Ce bras de fer qu'a Donald Trump avec TikTok, il est en train de démarrer en Europe, mais pas du tout sur les mêmes bases. C'est-à-dire que on ne sent pas, comment dire, une inquiétude très forte du côté des GAFA vis-à-vis de l'Europe, qui se disent peut-être qu'il y a peut-être moins de volonté politique qu'aujourd'hui Donald Trump n'en affiche vis-à-vis de la Chine.
Il est 7h46 sur Antenne de Radio Classique. Si on interdisait Instagram en Europe, je connais chez beaucoup de gens une épidémie de suicide qui risque de s'installer immédiatement étant donné l'utilisation massive d'Instagram par des gens qui se photographient toute la journée. Mais Instagram joue un rôle fondamental, par exemple, dans un secteur, un rôle même stratégique, qui est celui de la mode qu'on évoquait tout à l'heure au début de cette édition. Il est 7h47, voici Mickaël Londal.